Chapitre 3. Quelques jours plus tard, Juste Renaud revenait du village entre chien et loup. Il était pensif et sifflotait entre ses dents, ce qui était sa manière d'accompagner en sourdine ses méditations. Il ne fumait pas, se privant volontairement des inspirations que recèle la cigarette. Tout frais débarqué à l'école polytechnique, il avait un jour vu l'un de ses amis payer une somme assez ronde pour quelques caissons de Havanes apocryphes, et il s'était dit qu'avec cet argent, on achèterait bien des livres et des compas. Dès lors, il ne fuma plus. Sa nature correcte et mathématique se laissait toujours diriger par une évidence traduite en chiffres. C'était à l'heure même une évidence de ce genre qui lui faisait précipiter le pas. Il eût pu arriver plus tôt au but de ses ambitieux désirs. Il avait trouvé des lettres à la poste. L'une d'elles, qu'il avait lue en chemin, venait de son ancien professeur et lui apportait une séduisante proposition. Il s'agissait d'une entreprise intéressante. Un grand seigneur italien, pris de zèle philanthropique, allait faire dessécher et assainir des terres fort étendues, presque une province qu'on voulait rendre à l'agriculture. Un ingénieur de talent, bien connu pour ses précédents succès, s'était chargé de la direction des travaux et partirait à la fin de l'hiver. Mais il désirait s'adjoindre un aide intelligent qui le seconderait et le suppléerait au besoin. Le professeur consulté avait désigné Juste Renaud comme un jeune homme plein d'énergie et de capacité, et il lui conseillait fortement à lui-même d'accepter cette occasion favorable pour donner à ses études un complément pratique. Voyager, ce rêve de toute imagination de 20 ans, travailler sous la direction d'un maître déjà illustre, attacher son nom, ne fût-ce qu'en sous-ordre, à une entreprise grandiose, quelle perspective! L'esprit du jeune homme, quoique sobre et bien gardé contre les extravagances de la folle du logis, ne pouvait s'empêcher de battre un peu la chamade. « Je n'en dirai rien encore, » pensa Juste, qui ne voulait pas qu'on versât un seau d'eau froide sur le beau feu de ses projets. « L'Italie, les Maremmes, il me verrait déjà tremblant la fièvre, brûlé par la malaria. Si j'écoutais ma mère, je me fixerais à la Brévine avec mes diplômes et je bornerais mon ambition à tracer des rigoles d'écoulement dans les tourbières. » Comme il approchait déjà de la maison, il vit, non loin du sentier, deux ombres immobiles, apparemment engagées dans un entretien animé. Il faisait trop sombre pour que Juste pût les reconnaître, mais un mot prononcé tout à coup par une voix jeune et claire lui fit lever la tête avec surprise. Le mot était insignifiant, mais la voix était celle de Joyeuse. Juste passa outre, ne sachant quel parti prendre, tournant la tête au bout d'un instant et vit un homme s'éloigner. Il s'arrêta alors et attendit la jeune fille. « C'est vous, Cécile ? » dit-il d'un ton de reproche. « Il est tard pour se promener seule par les chemins. » Elle baissait la tête. Il lui prit la main et la passa sous son bras, comme si elle eût été une petite sœur à protéger. « Rentrons vite, » poursuivit-il, « et soyez plus raisonnable l'autre jour. Si quelqu'un désire vous voir, dites-le à ma mère. Elle ne vous refusera pas de le recevoir chez nous. » « Oh, monsieur Juste !» murmura Cécile d'une voix brisée. « Est-ce que vous pouvez croire ?» Elle baissa la tête encore davantage et Juste entendit qu'elle pleurait. « Pauvre petit oison, » pensa-t-il, « les jeunes filles, ça n'a pas de logique, vraiment. Voilà Cécile que ma mère croit une perle de bon sens. Au lieu d'attendre sagement dans la cuisine, comme une estimable cendrillon, la visite de son amoureux, elle court à sa rencontre au clair de lune, la lune n'est pas même levée et s'expose à être grondée d'importance au retour. Puis elle pleure et me demande si je peux croire. « Monsieur Juste, » dit Cécile en relevant la tête, « il faut absolument que vous me promettiez de ne dire à personne où vous m'avez rencontré ce soir et que je n'étais pas seule. Il y va de la santé de mon grand-père. » poursuivit-elle avec insistance, comme Juste se taisait. « Quand il sera rétabli et pourra supporter l'émotion, je lui raconterai comment tout est arrivé. Vous verrez alors, ajouta-t-elle en regardant juste de ses yeux limpides et honnêtes, vous verrez alors que je n'étais pas à blâmer. Très bien, répondit-il assez froidement, étonné que cette fillette lui prescrivit le silence, sans dire seulement pourquoi. Ils rentrèrent. Cécile se glissa dans la cuisine et monta chez son grand-père. Sa courte absence avait passé inaperçue. Juste se retira dans sa chambre pour relire la précieuse lettre et cette rencontre, sans sortir de sa mémoire, qui était tenace et gardait tout, fut relégué à l'arrière-plan pour faire place à des préoccupations personnelles. Il y avait une semaine que le père Félix gardait le lit. Les douleurs aiguës des premiers jours avaient diminué, mais le docteur secouait encore la tête quand son malade parlait de se lever. Le tisserand du nid du Fol, un voisin d'ancienne date, était venu le voir, lui apportant les nouvelles du hameau avec ses doléances habituelles. Depuis l'an de disgrâce 1848, tout allait de travers dans ce pauvre monde. Il n'était pas jusqu'aux pommes de terre qui n'eussent pas à cette déchéance universelle. Après la chute de Louis-Philippe, elle n'avait pas été à moitié aussi farineuse qu'auparavant. Puis il parla de son fils aîné, qui avait 2 ans de plus que joyeuse. « Une perle, ce garçon » ajouta-t-il en guignant du coin de l'œil le père Félix pour voir l'effet de ses paroles. « Il n'y a que cette conscription qui me chagrine. Autrement, ma foi, je vous aurais déjà fait une proposition. » Il se tut pour voir venir. Mais son interlocuteur ne voulait pas remarquer ses avances. « Votre petite est fort gentille, » reprit le tisserand. « Elle est aussi sage qu'une nièce de curé et ne fait les yeux doux à personne. Pourtant, quoique ce ne soit guère à moi de le dire, j'ai cru remarquer qu'elle ne veut pas de mal à Étienne. » « Elle ne veut de mal à personne, bien sûr, » fit le grand-père, « mais elle est trop jeune et votre garçon aussi. » « Il n'est pas défendu aux vieux de faire des plans pour les jeunes, » répondit le tisserand. « C'est le seul plaisir qui nous reste, et encore on nous le gâte souvent. En un mot commençant, Félix, si nos enfants s'aiment, est-ce que vous iriez contre ?»« Je n'en sais rien. Drôle de moment que vous choisissez pour votre proposition, tisserand. Soit dit sans reproche. » « J'ai pensé que n'ayant rien à faire, par rapport à votre sciatique, vous y réfléchiriez mieux qu'en santé, » dit l'autre. « On n'est pas sans épargne des deux côtés. Si le tirage tourne mal et qu'il faille acheter un remplaçant, peut-être que vous feriez votre part afin de donner à votre petite Cécile 7 années de bonheur de plus. » Il avait tiré le registre d'expression, comme disent les organistes. Sa voix s'était faite attendrie. Même une larme humectait le coin de son œil. Le père Félix ne se laissa pas toucher. « Je n'ai rien contre Étienne. Repassez dans 2 ans, on pourra voir. » Tout le reste du jour, le vieillard parut préoccupé. C'était la première fois que l'avenir de Joyeuse s'imposait à ses réflexions. Évidemment, puisque d'autres y pensaient, il était temps qu'il y songeât aussi. Et la petite, y pensait-elle? Une sorte de fièvre s'empara de lui. Pendant qu'il restait là, inactif, prisonnier dans sa chambre, ne cherchait-on pas à s'emparer du cœur de Joyeuse? Cet enfant, si bien gardé jusqu'alors, n'était-elle pas en péril d'oublier la sage réserve que son grand-père avait su lui inspirer? Quels étaient les allants et venants dont il entendait résonner les pas sur les dalles de la cuisine? La fermière était là sans doute, mais sa vigilance ne serait-elle jamais en défaut? Ainsi, le pauvre grand-père se torturait l'esprit tout en se répétant qu'une fille vraiment sage se passe de surveillance et que Cécile avait trop de raisons pour faire un mauvais choix. Sa mère aussi en avait de la raison, pensait-il, et pourtant, à quel misérable elle s'est donnée. « Je ne sais de quoi il retourne, » dit la fermière à son fils juste ce soir-là. « Le père Félix est moins bien qu'hier. Il a de la fièvre, il s'agite. C'est ce bavard de tisserand avec ses maudits commérages qui l'aura mis ainsi tout sens dessus-dessous. Qu'il y revienne, je ne dis que ça. Où est Cécile? N'as-tu pas remarqué, juste, qu'elle est toute changée depuis quelques jours? Ce n'est plus notre joyeuse. Elle répond à peine quand on lui parle, et parfois elle tressaille comme si elle entendait le canon. Est-ce qu'elle deviendrait nerveuse par hasard? Bonté divine, mais pauvre garçon, que les filles d'aujourd'hui sont fluettes et fragiles. Ça ne vous fera pas des femmes d'usage. Mais où donc est Cécile? Et Madame Renaud, prise d'impatience, s'élança dans la chambre commune pour y chercher la jeune fille. Cécile! Appela-t-elle en ouvrant la porte du cabinet où se trouvait le lit de Joyeuse. Personne ne répondit. La fermière courut au garde-manger, puis à la cave et jusqu'à la grange, sans rencontrer celle qu'elle cherchait. Elle sera sortie sans m'avertir. Je trouve cela d'un sans-gêne, à la nuit tombée encore. M'obliger à courir après elle, par ce temps froid et avec ma névralgie. Je vous dirai votre fête, mademoiselle Cécile. Nouant à la hâte et les brides de son capuchon, elle sortit. Juste resta debout devant le foyer, le menton dans la main, l'air pensif. « Elle m'a interdit de parler, pensait-il, et d'ailleurs, même en enfreignant sa défense, je n'aurais pu retenir ma mère. Pauvre petite, c'est pour le coup qu'elle va tressaillir. Mieux vaut pour elle-même que l'affaire vienne au jour et qu'on mette fin à ses rendez-vous romanesques. L'explosion sera tragique, je le crains, mais tôt ou tard, elle devait venir. » L'explosion fut tragique en effet. Quelques minutes plus tard, Madame Renaud rentra, suivie de Cécile. Pauvre Joyeuse, depuis une semaine, elle faisait peu d'honneur à son joli surnom. Elle s'arrêta dans l'ombre de la porte et se tint là, debout, tremblante et la tête baissée. « Va-t'en, juste !» dit brusquement la fermière. « Nous n'avons que faire de toi ici !» Puis elle prit la jeune fille par le bras et l'attira bon gré mal gré dans le cercle de lumière que projetait le feu. « Méchante fille » commença-t-elle. Mais tout d'un coup, sa grande colère tomba. Elle s'assit comme accablée et se couvrit le visage de ses deux mains. « Cécile, Cécile » murmura-t-elle. « Jamais je n'aurais cru !» La jeune fille sanglotait. « N'as-tu donc pas de confiance en moi ?» reprit la fermière. « Toi qui me promettais l'autre soir de me demander conseil, ne sais-tu pas qu'en agissant ainsi, tu te mettras à la langue du monde ? Et choisir cet homme, venu on ne sait d'où, qui a l'air violent et sauvage. Imprudente, c'est le bonheur de toute ta vie que tu risques. » « Maîtresse !» dit Cécile à voix basse, en s'agenouillant devant la fermière. « Maîtresse, ne pensez pas mal de moi. Vous avez été bonne comme une mère, et si je pouvais, je vous dirais tout bien sûr. Mais il faut d'abord que je parle à mon grand-père. Attendons à demain pour lui ménager encore une bonne nuit. Je vous en supplie, maîtresse, ne lui dites rien. » Elles pleuraient toutes deux. Madame Renaud hésitait encore, car sa confiance avait reçu un terrible choc. Elle secoua la tête. « Ah, fillette » soupira-t-elle, « je crains que tu ne puisses blanchir des apparences si noires. Attendons à demain, toutefois, je me tairai. » Toute la soirée, elle fut sombre et mystérieuse comme un sphinx. Cécile tremblait que le fermier ne demandât l'explication de ses fréquents soupirs, de ses sorties misanthropiques. Mais il était accoutumé à voir l'humeur de sa femme varier comme le baromètre et il se garda de toute question. Le lendemain parut long à venir à Juste et à sa mère, aussi bien qu'à Cécile. Le jeune homme, tout préoccupé qu'il fût de ses plans d'avenir, éprouvait cependant pour Joyeuse, la petite sœur de son enfance, un affectueux intérêt. Il lui tardait de voir s'expliquer un enchaînement de circonstances insolites sous lesquelles il devinait quelques mystères. « Bonjour, grand-père, comment êtes-vous ce matin ?» demanda Cécile en entrant dans la chambre du vieillard, tremblante mais résolue, comme une vaillante fille qui n'a jamais reculé devant son devoir. « Mieux, petite, pour ce qui est des douleurs. Merci. » « On ne le dirait guère. Vous avez mauvais visage, comme si vous n'aviez pas dormi. » Le père Félix ne répondit pas. Il regardait Cécile, s'efforçant, pour ainsi dire, d'abdiquer ses yeux de grand-père et de ne plus voir en elle l'enfant, mais la jeune fille, tantôt prête à marier. « Que te voilà grande, mamie, presque une vraie femme !» dit-il avec un soupir. Cécile plaça sur le guéridon un plateau recouvert d'une serviette blanche et qui portait le déjeuner. Elle lissa le drap du lit d'une main soigneuse, releva les oreillers et dit en embrassant son grand-père « Trouvez-vous mauvais d'avoir une petite femme pour vous soigner et tenir votre ménage ?»« Ah, mignonne, bientôt le ménage du grand-père ne te suffira plus. Un mari viendra t'y chercher. » Joyeuse secoua la tête. « Ne parlez pas de ça, » fit-elle, « je n'y songe pas. » « Mais d'autres y songent peut-être, ma fillette, et pourraient te le dire tantôt. Sois prudente alors, mon enfant, sois prudente. Ta mère aussi était une joyeuse, mais faute d'avoir sagement réfléchi, elle fit un mauvais choix, perdit sa gaieté, son bonheur, puis mourut. « Grand-père, » dit vivement Cécile, « vous ne parlez jamais de mes parents. Je suis grande à présent, je voudrais savoir. » « Savoir quoi ? Comment ta mère, à 20 ans, donna son cœur à Joseph Vadien, l'épousa et fut abandonnée? Je l'ai vue languir de chagrin, sans y pouvoir rien faire. Elle est morte et je l'ai mise au cimetière à côté de ma femme. Pourquoi te dire les détails de cette histoire? Tu en sais assez pour pleurer ta mère et craindre d'avoir son sort. Joseph Vadien n'est pas revenu et n'a jamais donné de ses nouvelles. Sans doute il est mort. Dieu lui fasse grâce. » « Non, il n'est pas mort, » dit la jeune fille à demi-voix en appuyant son front sur l'oreiller. Le vieillard tressaillit. « Qu'en sais-tu ? » fit-il une voix saccadée. « On l'a revu dans le pays, » dit-elle lentement, comme pour mesurer l'émotion au vieillard et lui donner le temps de se remettre tandis qu'elle parlait. « On l'a revu dernièrement. Plusieurs personnes lui ont parlé. Il a passé au nid du fol. On lui a dit que nous étions ici, chez les Renault. Il est venu. » Le vieillard étendit les deux mains devant lui, comme pour repousser une image odieuse qui surgissait du passé. Cécile s'inclina, lui entourant le cou de ses bras et murmurant « Grand-père, pardonnez-moi, je ne puis autrement. Le moment est venu où il faut que je parle. » « Vous rappelez-vous que, le soir de notre arrivée ici, quelqu'un entr'ouvrit la porte de la cuisine, puis disparut ? C'était lui, il avait voulu nous voir. Si vous saviez comme il est malheureux, grand-père, tout seul au monde, fatigué, usé, plein de chagrin et de repentance. » « Il t'a parlé ? » fit sourdement le père Félix. « Oui, plusieurs fois. « Grand-père, j'ai cru que mon cœur s'arrêtait le soir où il m'a pris les mains en disant « Je suis Joseph Vadien, ton père. » Je me suis sauvée sans penser à rien, sans vouloir l'entendre. Mais il est revenu. Matin et soir, il m'a parlé. Il a été jusqu'au bout du monde, dans les mines. Il y a trouvé de l'or, mais ses compagnons l'ont dépouillé et frappé de leurs couteaux. Il a eu de terribles années, grand-père, dans ces immenses forêts où il était bûcheron et ne voyait personne pendant des semaines. Il dit qu'il se sentait devenir fou, fou de remords, en pensant à sa femme et à sa fille. Il se brûlait de fièvre et de mal du pays. Puis il entendit parler d'une ville où régnait le choléra jaune, les gens y mouraient chaque jour par centaines. Il y alla parce qu'il souhaitait d'en finir avec la vie et n'osait pourtant pas se détruire. Pour prendre la maladie, il se jeta dans un hôpital d'où les docteurs et les infirmiers se sauvaient. Avec un curé qu'il appelle le chapelain, il soigna les pauvres gens jusqu'à la fin de l'épidémie. La mort n'avait pas voulu de lui. Les autorités de cet endroit le remercièrent ensuite de son courage et lui offrirent de l'argent. Mais il refusa en disant qu'il n'avait eu que le courage du diable et qu'il avait cherché sa propre ruine. Après cela, il retourna aux mines. « Si vous l'entendiez, grand-père, raconter la misérable vie qu'il a menée sans un jour de paix pendant 17 ans, vous auriez pitié de lui, oh, grand pitié! Il a fait mourir ma pauvre mère, mais les tourments, les maladies et la misère qu'il a endurées étaient pires que la mort. Dieu l'a poursuivi jusqu'au bout du monde pour lui faire sentir sa main. Vous disiez tout à l'heure que Dieu lui fasse grâce. Puisqu'il lui a permis de revenir, est-ce que vous ne lui ferez pas grâce aussi, grand-père ? » Le visage de la jeune fille était baigné de larmes, mais tandis qu'elle parlait, les traits du vieillard avaient pris une expression rigide, inexorable, comme une face de marbre qui ne voit ni n'entend. « Ah ! » dit-il lentement, « après m'avoir volé ma fille, il voudrait sans doute encore l'enfant qui me reste. Va-t'en donc, cours vers ton père, va, laisse-moi » répéta-t-il d'une voix dure que Cécile ne lui avait jamais entendue. Elle sortit, le cœur serré, et descendit à la cuisine où elle éclata en sanglots. « Ce n'est plus lui, ce n'est plus mon grand-père » s'écria-t-elle. « Je croyais qu'il pardonnerait, il est si bon. Oh, mon Dieu, qui nous aidera ?» Madame Renaud, ne comprenant rien à cet accès de douleur, prit Cécile par la main et l'emmena dans la chambre, à l'abri de toute oreille indiscrète. « Explique-toi, dit-elle, aussi bien j'ai assez de ces mystères, voulant savoir ce qui se passe dans ma maison. » Mais lorsque Cécile, avec beaucoup de larmes, lui eut révélé que cet homme sombre, dont elle avait eu si peur la première fois, était son père, Madame Renaud poussa un grand soupir où le soulagement et la consternation avaient une part égale. « Ah, ma pauvrette » fit-elle en caressant les cheveux de la jeune fille, « que tu m'ôtes un grand poids de dessus le cœur. Te revois la blanche devant mon esprit. Mais lui, cet homme noir, il avait bien besoin de venir tout brouiller et bouleversé quand chacun le croyait mort et enterré, comme c'était son devoir de l'être. « Oh, Madame Renaud !» protesta la jeune fille. « Il est si malheureux, et il a eu un si long repentir. »« Tu as raison, » dit la fermière en l'embrassant avec brusquerie. « Mais ton grand-père aura un rude combat. Il n'a rien oublié, je le connais. Pourra-t-il pardonner ?» C'était une terrible lutte, en effet, qui déchirait maintenant le cœur du vieillard. Pardonner, ce mot seul lui semblait lâche. Sa fille n'avait-elle pas souffert, passé les nuits dans les larmes, caché silencieusement le chagrin qui l'a tué ? Son abandon lui semblait une honte, elle ne voulait plus sortir. Quelle longue veillée ils avaient passée en tête à tête, le père et la fille, sans parler, à regarder le berceau où dormait la petite Cécile. L'enfant avait failli mourir car le lait de sa mère, tari par la fièvre, lui avait manqué tout à coup. Le père Félix se rappelait avec quel geste désespéré la jeune femme avait un jour éloigné de son sein l'enfant toute malingre et chétive en disant « Va, va, que le bon Dieu te reprenne à présent. Ici, les femmes ont trop à souffrir. » Il avait surprise une fois debout devant une armoire. C'était son armoire de noces où elle avait serré son trousseau. Elle y gardait aussi 1000 petits objets qui n'avaient d'autre valeur que celle du souvenir. Sur une pile de linge était posé le bouquet de fleurs d'oranger qui ornait sa coiffe de tulle blanc au jour de son mariage. Elle lui parlait. « Tu m'as porté malheur, disait-elle. Je veux t'avoir dans mes mains le jour où l'on me conduira au cimetière. Quand Joseph reviendra, il ne trouvera plus rien, rien. » Il a trouvé sa fille, pensait le vieillard avec une indicible amertume. « C'est donc pour lui que je l'ai élevée. J'ai semé dans les larmes pour qu'il moissonne sans peine. Me voilà vieux, je serai seul. Le père a le droit de m'enlever son enfant. » Qu'elle aille, je ne dirai rien. Mais valait-il la peine, mon Dieu, de vivre 70 années pour voir cela? Pardonner, oublier, est-ce qu'on peut oublier? Tout à coup, avec la vigueur passagère que lui prêtait la fièvre, il se leva et chercha ses vêtements. Sans prendre garde aux douleurs aiguës que lui coûtait chaque mouvement, il s'habilla et descendit l'escalier avec une peine infinie. Quand il se trouva dans la cuisine, un vertige le prit. Pâle et défaillant, il s'appuyait à la muraille quand Cécile ouvrit la porte de la chambre. « Grand-père, est-ce bien vous ? » s'écria-t-elle, saisie comme si elle eût aperçu un spectre. « Dis à Madame Renaud que je veux retourner chez moi, aujourd'hui, tout de suite, » murmura-t-il en rassemblant ses forces. Elle le soutint pour le conduire à un siège. « Vous n'y songez pas, grand-père » dit-elle d'un ton suppliant. « Partir, faible comme vous êtes ?»«
Je le veux, entends-tu ? Toi, tu peux rester. »
« Que vous ai-je fait pour me parler ainsi ? Je ne vous quitterai pas, grand-père !»
Des larmes roulaient sur ses joues que cette semaine d'angoisse avait pâli.
« Ne pleure pas, dit-il avec toute son ancienne tendresse. Moi et le chagrin, on est d'anciennes connaissances. Mais toi, je ne veux pas que tu pleures. Laisse le vieux grand-père s'en aller tout seul. Sa route n'est plus bien longue. » Ce n'est pas moi qui te détournerai d'honorer ton père, mais je ne saurais lui pardonner, il faudrait pour cela m'arracher la mémoire et le cœur. Je ne veux pas voir cet homme, je pars. » En vain, Cécile supplia, en vain, Madame Renaud épuisa les meilleures raisons pour démontrer au père Félix l'imprudence, la folie de cette décision. Il fallut se rendre à sa volonté. Le fermier attela son meilleur traîneau, sa femme y amoncela les couvertures, et Cécile, pleine d'inquiétude et de tristes pressentiments, aida le vieillard à y monter. « Adieu, dit le père Félix, en serrant la main d'Isaac Renaud et de ses fils. Soyez bon pour ma fillette quand je n'y serai plus. » « On se reverra, dit le fermier. Ayez bon courage, père Félix, et que Dieu vous montre votre chemin. » Juste prit les rênes. Il était le seul qui put disposer de sa matinée et rendait de grand cœur ce service à Joyeuse. « Vous êtes bien installé, demanda-t-il. N'aurez-vous pas froid ? Ma mère a mis une chaufferette sous ses couvertures. Maintenant, partons. La Rosette est sage comme une demoiselle et ne vous secouera pas trop, vous verrez. » Le traîneau s'éloigna. Comme Cécile se retournait pour jeter un dernier signe, un sourire mouillé de larmes, aux amis qu'elle laissait derrière elle. Le cheval allait au pas, retenu par la main de Jus, et secouait de temps en temps ses grelots, comme pour protester contre cette allure trop lente. Tout à coup, Cécile pâlit. Elle voyait venir à leur rencontre, se hâtant à travers champs, sur la neige durcie, un homme que Jus reconnut en même temps qu'elle. Il s'approchait d'une barrière qui fermait le chemin et resta là pour les attendre. Juste se tourna vers la jeune fille. « Faut-il passer outre ? » lui demanda-t-il des yeux. Mais cette minute d'incertitude avait tranché la question. Déjà, l'homme saisissait le cheval par la bride. « Laissez-moi au moins cette chance, » dit-il à Juste, d'un ton moitié impérieux, moitié suppliant. « Il faut que je lui parle. » À cette voix, le vieillard s'était subitement redressé, mais il ne prononça pas une parole et détourna la tête. « Beau-père, dit Joseph Vadien en appuyant sa main sur le bord du traîneau, écoutez-moi, regardez-moi, vous verrez que je ne suis plus le même. J'ai été un misérable, mais le malheur m'a suivi partout et votre fille s'est bien vengée. Pardonnez-moi, vous voyez bien que je ne suis plus le même puisque j'en suis venu à demander pardon. » Il se tenait là, tête découverte. Le vent soufflait dans ses cheveux noirs qui grisonnaient aux tempes. Un singulier mélange d'humilité et d'orgueil encore mal vaincu par tant d'années de misère donnait à sa voix des intonations tantôt violentes et tantôt douloureuses. Le père Félix restait immobile, les regards tournés vers la vaste et froide étendue de neige. On eût dit qu'il n'entendait rien. « Ne voulez-vous pas m'écouter ? » reprit Joseph Vadien. « Je ne veux rien que votre pardon. Vous garderez ma fille. Elle est à vous plus qu'à moi. Je suis fait à vivre seul. Je m'en irai si vous voulez. Quand même, j'aurais aimé à finir ici mes vagabondages. Mais dites que vous me pardonnez et je n'aurai plus crainte de mourir. » Un long silence lui répondit seul. Les yeux du vieillard ne s'étaient arrêtés sur lui qu'une seconde pour s'en détourner aussitôt avec une expression d'horreur. « Laissez-nous, père !» dit Cécile. Elle prononça ce nom de père avec hésitation et embarras, encore mal accoutumée à se l'entendre dire. « Laissez-nous, il est malade, vous voyez, il faut que nous arrivions chez nous au plus vite. Attendez et gardez bon espoir, » ajouta-t-elle à voix basse. Il ne répondit pas, ouvrit lui-même la barrière pour livrer passage au traîneau et resta longtemps immobile à le regarder s'éloigner.
Durant tout le trajet, le père Félix ne prononça pas une parole. Il se sentait brisé de corps et d'âme. Cette rancune sourde, qui durant des années avait dormi, se réveillait impérieuse et dominait sa volonté. Il ne haïssait qu'un homme au monde, mais c'était d'une haine tenace qui avait vieilli avec lui et s'attachait à tout son être par des racines profondes. Le père Félix avait éprouvé la vie et retenu la sagesse. Sa bienveillance sereine, sa large indulgence, l'heureux optimisme de sa philosophie étaient les nobles fruits de l'expérience. Mais il lui restait dans sa vieillesse à apprendre une leçon plus haute contre laquelle notre cœur se révolte toujours. Ce fut un événement dans le nid du fol lorsqu'on vit arriver les trois voyageurs. On se pressait sur les portes pour les voir passer, on s'apitoyait.
« Pauvre père Félix, lui qui partait si guilleré il n'y a pas 15 jours, et notre joyeuse, est-elle pas l'échangée ? Ils ont rencontré le guignon chez ses protestants. Aussi, pourquoi tant fréquenter les hérétiques ? Qu'on leur vende ses œufs, son beurre, aussi cher qu'on peut, passe encore. Mais en faire ses amis, c'est tenter la mauvaise chance. »
La maison du grand-père était située un peu à l'écart, sur une pente exposée au soleil. Quand les grelots du traîneau se firent entendre dans la cour, une vieille femme accourut sur le seuil avec de grands gestes et des cris d'alarme.
« Ne faites pas de bruit, Babette, » dit Cécile. « Allez plutôt donner un picotin d'avoine au cheval pendant que je chaufferai le lit de grand-père. »
Juste repartit presque aussitôt. La scène dont il avait été le témoin, les paroles de Joseph, la figure rigide du vieillard ne lui sortait point de l'esprit et en avait chassé toute autre pensée. Il admirait la vaillance de Cécile, qui ne se plaignait pas, ne se répandait point en larmes et avait encore trouvé pour son père un mot d'espoir. Le reste de la journée fut très pénible. Accablé par le mal qui se déclarait avec une nouvelle intensité, le vieillard semblait n'avoir plus ni force ni voix. Cécile congédia la vieille, dont le ton criard et les lamentations fatiguaient le malade. Puis elle s'assit à son chevet, qu'elle ne quitta pas de toute la soirée. La présence réconfortante, quoique parfois grondeuse, de Madame Renaud, ses conseils maternels, sa brusquerie affectueuse, manquaient à la jeune fille. Elle se trouvait sans appui dans une position pleine de difficultés où 1000 complications délicates, 1000 conflits de devoirs pouvaient survenir. Plus elle y réfléchissait, plus elle se sentait perplexe et ce fut la prière seulement qui lui vint en aide. Le lendemain, les voisins accoururent. Tous voulaient voir le malade, tous avaient quelques remèdes à proposer, élixir infaillible, onguent merveilleux, tisane descendue tout droit du ciel avec la rosée de mai pour soulager les maux de cette pauvre terre. À midi, Cécile avait déjà reçu une 12aine de petites fioles qu'elle aligna soigneusement sur la commode par ordre de grandeur.
« Regardez-les de temps en temps, grand-père, » dit-elle en souriant, « ça ne saurait manquer de vous soulager. »
En attendant, elle s'en tenait aux prescriptions du médecin et fermait impitoyablement la porte aux visiteurs trop pleins de sollicitude qui voulaient absolument offrir des consolations au père Félix. Elle eut plus d'un rude assaut à soutenir. Au village, on ne saurait souffrir seul, ni même mourir tranquille, à moins de le faire à la dérobée, de déloger sans tambour ni trompette. Les voisins sont là qui vous regardent, commentent votre mal, prédisent votre fin, chuchotent d'un air mystérieux et se demandent « A-t-il encore des cousins ? Il serait temps de les avertir. Qu'en pensez-vous ? » Et si vous les priez poliment de vous laisser en paix, ils se fâchent. N'est-ce pas leur devoir de combourgeois et de chrétiens de vous escorter jusqu'au bout de la route et de vous souhaiter un bon voyage pour ceux qui viennent après ? Cécile voulait épargner à son grand-père ses curiosités irritantes et la fatigue de ses questions toujours les mêmes. Elle recevait les avis, comme les petites fioles, avec un sourire de gratitude, tout en se maintenant dans ses retranchements. Mais le troisième jour, le mal céda un peu et la victoire parut demeurer à la robuste constitution du vieillard.
« Ne vient-il personne pour moi ? » demanda-t-il à Cécile.
« Personne ?
Tout le village, grand-père, et des sabots pleins de neige qui font sur les dalles. J'ai dû laver deux fois ma cuisine ce matin. »
Ne les renvoie pas tous. Laisse entrer les vieux amis, un ou deux tout au moins. Le tisserand, par exemple, ou bien Jean-Jacques, ceux qui savent les nouveaux. »
Cécile le regarda avec quelque étonnement, car déjà la veille, son grand-père avait demandé « Quoi de neuf au village? Ne se passe-t-il rien ?»
On eût dit qu'il souhaitait et craignait à la fois d'entendre un nom qu'il ne voulait pas prononcer. Aussi, lorsque Clézide Leroux, le tisserand, vint à la tombée de la nuit prendre des nouvelles, Cécile, quoiqu'à contre-cœur, lui ouvrit la porte qu'elle avait si vaillamment défendue contre tout le hameau.
« Bonsoir, camarade, » dit le père Félix, d'une voix qui semblait l'écho de son joyeux timbre d'autrefois. « On est bien aise de vous voir. Asseyez-vous. »
« Ce n'est pas de refus, » dit Clézide. « La montée est raide jusqu'ici. Quelle idée de s'être venu percher si haut !»
L'air est meilleur à ce qu'on dit. Le fond du vallon est humide.
« Humide ? Voyons, père Félix, qui est-ce qui a le plus de rhumatisme, de vous ou de moi ? Voilà une preuve, il me semble, qui se laisse toucher et sentir. »
« Que trop ! » dit le vieillard en se soulevant avec peine.
« Comme on devient raide, bonté divine ! Mais ce n'est pas de cela que je me plains. Cécile est une merveilleuse petite garde-malade. Elle me tirera d'affaire encore cette fois, faut croire. »
« Oui, c'est une charmante fille, » dit Clézide en se frottant le menton. « Mais elle est terrible sur la consigne, savez-vous ? Elle m'a bellement fermé la porte au nez ce matin. »
C'était ta bonne intention, voisin. Me sentant mieux ce soir, je lui ai demandé d'être un peu moins sévère. Racontez-moi les nouveaux, Clézide, ça me distraira.
Hum, hum, fit le tisserand.
Il croisa les jambes et regarda fixement son pantalon trop court, où s'étalait sur le genou une large pièce de mylène jaune qui tranchait avec la teinte plus foncée du reste. Il ouvrit deux ou trois fois la bouche, puis la referma sans mot dire, comme un poisson qui bâille. On voyait qu'il brûlait de parler.
« Les nouveaux, » commença-t-il. « Ah, la mouée, y a pas grand-chose de neuf aujourd'hui. Dans une petite endroit comme la nôtre, tout va son train-train sans grande variété. Attendez, mais faut-il vous le dire ou le garder pour moi ? Diantre, ça m'embarrasse. On a revu quelqu'un dans le pays ces derniers jours. Vous savez qui j'entends ?
Sans doute. Allez toujours. »
La respiration du vieillard devint plus rapide. Ses yeux enfoncés brillèrent d'anxiété et d'impatience.
« Eh bien, » poursuivit le causeur, « il a demandé de vos nouvelles. Mêmement, il est monté jusqu'ici en votre absence et a voulu entrer, mais Babette l'a pris pour un voleur et s'est barricadé dans la cuisine. Puis il est parti et on ne l'a plus aperçu jusqu'à hier. »«
Hier ?» répéta le père Félix.
« Oui, comme j'étais à mon métier, à la nuit tombante, battant de ci, battant de là, pour finir un nappage qui doit être prêt avant la Noël, c'est pour la fille à Simon qui s'épouse avec le grand Mercier. Drôle d'assortiment tout de même. Je ne leur donne pas un mois pour être à couteau tiré. Et où est-ce que j'en étais de mon histoire? J'ai beau être tisserand, je perds le fil, père Félix, voyez-vous? »
À cette heureuse saillie, dont il était l'inventeur incontesté et qui remontait au jour de sa jeunesse, Clézide Leroux se renversa contre le dossier de sa chaise pour rire avec béatitude. Un peu remis, il reprit le fil et continua.
J'étais donc à mon métier. Un homme entre. C'est-à-dire que je l'avais vu d'abord passer devant la fenêtre et que je m'étais dit « Diantre soit de l'individu qui me prend mon reste de jour. » Procédons par ordre, comme dit monsieur le curé quand il commence son sermon, en vous posant les trois points. Donc l'homme entre. C'était Joseph Vadien, votre gendre, soit dit sans offense voisin. Il ne fait pas de longs discours, celui-là. C'est comme moi, je n'ai jamais pu souffrir les grands parleurs qui prennent toute la place dans la conversation et ne vous laissent pas mettre un mot entre les leurs. Sans autre compliment, il me dit « Vous me reconnaissez, ça se voit. N'auriez-vous pas un lit à me louer, la place pour dormir, rien d'autre ? J'ai du travail à la Tuilerie, du bois à fendre pour tout l'hiver.
Le patron répond de moi et je paie d'avance. Ça me botte, vous comprenez ? Nous avons là un joli cabinet qui ne sert à personne. L'homme en offrait 6 francs par mois. L'affaire est conclue, mais pour peu que ça vous contrarie, Félix, on la défera. Chez le tisserand ouailleur, qu'importait au père Félix ? Ainsi, pensa-t-il, voilà Joseph établi pour tout l'hiver au village. Il fera son possible pour rencontrer Cécile et elle sera bientôt de son bord contre moi. Elle l'est déjà, car elle me trouve dure et sans pitié. Son affection s'en ira, et pour l'avoir soignée, élevée, chérie, je n'aurai plus rien. Si je vais à la confesse avant la Noël, monsieur le curé me dira « Pardonnez, comme vous demandez qu'on vous pardonne. » C'est facile à dire. Monsieur le curé ne sait pas ce que c'est que de voir mourir son enfant. Pardonner, cela signifie tendre la main à cet homme, l'accueillir ici dans ma maison, lui parler comme autrefois, m'asseoir à côté de lui à l'église et m'arrêter avec lui au cimetière sur la tombe de ma fille. C'est voir joyeuse lui sourire comme à moi, lui tendre comme à moi sa joue matin et soir. C'est marcher sur ma rancune, c'est laisser dire « il n'y a point de justice, le mal passe et s'oublie et ceux qui le font sont accueillis finalement par les gens de bien. » Tandis que le cœur droit du vieillard, incapable de comprendre le pardon autrement que complet et sans restriction, s'insurgeait encore et se soulevait en révolte, sa petite fille cherchait en vain un moyen de conciliation.